En règle générale, les lois de la physique, bah, elles sont plutôt rassurantes parce qu'elles sont prévisibles.
Ouais, complètement.
Genre, si on jette un petit caillot dans un étang tranquille, ça crée des petites ondulations douces à la surface. L'action équivaut à la réaction, quoi. C'est l'ordre naturel des choses. On sait exactement à quoi s'attendre.
L'énergie se dissipe de manière proportionnelle, en fait. C'est le principe même de la causalité classique.
Voilà, c'est ça. Mais imaginons un instant qu'on jette ce même petit caillou, un truc de rien du tout, et que soudainement, bam, l'eau se met à bouillir violemment. La terre tremble sous nos pieds, il y a une vague massive qui engloutit la rive et qui modifie toute la topographie du coin.
Ah ouais, là, on sort complètement de la physique classique.
C'est clair. On entre dans l'anomalie totale, dans un phénomène qui défie toute logique proportionnelle. Et transposé à l'histoire humaine, c'est exactement ça, une explosion sociologique. Un événement déclencheur qui a l'air super mineur, mais qui engendre une réaction en chaîne capable de renverser un empire entier.
Exactement. Et c'est la définition parfaite de ce qu'on va aborder aujourd'hui.
Du coup, bah, décortiquons tout ça. Bienvenue dans notre analyse approfondie des sources. Aujourd'hui, on se plonge dans les travaux du chercheur Craig Kinier, plus précisément sur les chapitres 3 à 5 du livre des Actes des Apôtres. C'est un véritable laboratoire de cette dynamique d'explosion.
Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment un mouvement minuscule, composé principalement de marginaux, a pu, en gros, faire bouillir l'étang de l'Antiquité. Comment ils ont pu défier les structures de pouvoir les plus redoutables et déclencher une croissance vertigineuse.
Tout en naviguant sur une ligne de crête terrifiante entre une générosité utopique d'un côté et une discipline interne mortelle de l'autre. Parce que pour ceux qui nous écoutent, se pencher sur ces textes antiques, c'est pas juste une leçon de théologie poussiéreuse, hein.
Ah non, pas du tout. C'est une véritable masterclass sur l'anatomie des mouvements sociaux. Ça décortique le courage face au pouvoir absolu, mais ça met aussi en lumière un truc qu'on ignore souvent, le danger mortel de l'hypocrisie pour un mouvement naissant.
Ouais, la menace interne qui est souvent bien plus foudroyante que la persécution de l'extérieur. Alors le fameux caillou dans l'étang qui déclenche tout ça, c'est une scène qui au départ est presque banale. On est à Jérusalem, il est vers 15h, c'est l'heure de la prière. Et à l'une des entrées majeures du temple, la fameuse belle porte, il y a un homme handicapé de naissance qui mendie. Si on replace ça dans le contexte du judaïsme du 1er siècle, la mendicité s'était vue avec une certaine honte à cause d'une forte éthique du travail.
C'est ça, mais en même temps, faire l'aumône, c'était une obligation religieuse majeure, tu vois, une preuve de piété.
Donc ce mendiant, il avait un emplacement stratégique exceptionnel en fait.
Carrément. Les milliers de pèlerins qui passaient par cette porte, ils cherchaient précisément à se mettre dans de bonnes dispositions spirituelles avant d'entrer dans le lieu saint. Donc, donner à ce mendiant, c'était presque une transaction sociale et religieuse.
Ouais, c'est le décor idéal. Et c'est là que Pierre et Jean, deux leaders de cette toute nouvelle secte juive qui suit Jésus, s'approchent. Le mendiant, logiquement, il s'attend à recevoir quelques pièces.
Bah oui, sauf qu'ils n'ont pas un sou sur eux. Au lieu de ça, Pierre lui ordonne de se lever et de marcher au nom de Jésus.
Et il faut vraiment s'arrêter là-dessus, sur cette expression « au nom de Jésus ». Parce que notre culture moderne a un peu transformé ça en une sorte de formule magique pour terminer une prière, quoi.
Ouais, le fameux « abracadabra spirituel ».
Exactement. Mais moi, je préfère le voir à travers le prisme du droit civil. C'est l'équivalent parfait d'une procuration juridique intégrale. En agissant au nom d'eux, Pierre et Jean se positionnent comme des mandataires, des agents autorisés.
C'est une super analogie, parce que c'était un principe juridique super connu dans l'Antiquité, notamment avec le concept hébraïque du chaliar, l'envoyé. On disait de lui qu'il était, je cite, « comme l'homme lui-même ».
Ah oui, donc une vraie délégation de pouvoir.
Tout à fait. Et Craig Keshien fait une observation littéraire brillante là-dessus. Le premier livre écrit par Luc, l'Évangile, il s'ouvre en disant qu'il relate ce que Jésus a commencé à faire.
D'accord.
Donc, le deuxième livre, les Actes, c'est pas juste l'histoire des disciples qui font des trucs de leur propre chef. C'est le récit de ce que Jésus continue de faire, mais cette fois par l'intermédiaire de ses agents, qui utilisent cette fameuse procuration.
Et bam, le résultat de cette action, c'est la guérison immédiate du gars que tout le monde connaît. Ça provoque un attroupement monstre. Imagine un peu la scène, le mec saute partout dans le temple, la foule accourt, complètement stupéfaite.
Tu m'étonnes.
Et c'est là que Kier prend la parole. Et franchement, il choisit pas du tout la diplomatie. Il confronte la foule directement à une contradiction collective vertigineuse.
L'ironie de son discours est cinglante, c'est vrai. Il brosse un contraste brutal. Il leur rappelle que quelques semaines plus tôt, au procès de Jésus, ils ont exigé qu'on libère Barabbas, un meurtrier reconnu.
Il engracie un tueur, quoi.
Voilà. Ils accordent la grâce à quelqu'un qui prend la vie, tout en réclamant la mort de celui que Pierre appelle en grec l'archégos de la vie.
Attends, on va s'attarder sur ce mot, archégos. Si je me trompe pas, c'est pas juste un chef, non. Ça désigne plutôt un pionnier, celui qui ouvre la voie dans un territoire hostile pour que les autres suivent.
C'est tout à fait ça. C'est le fondateur, la source originelle. Et l'absurdité suprême que Pierre pointe du doigt, elle est là. On ne peut pas assassiner la source même de la vie et s'attendre à ce qu'elle reste gentiment dans la tombe.
C'est ontologiquement ridicule.
Exactement. La résurrection de Jésus, prouvée par la guérison du mendiant, rend leur tentative de meurtre complètement immorale et absurde. Mais, et c'est là que c'est malin, Pierre introduit une nuance juridique. Il concède que la foule a agi par ignorance.
Ah, la circonstance atténuante.
Ouais, dans le droit antique, l'ignorance ça atténue, mais ça n'efface pas le crime. Donc il leur offre la repentance comme une sorte de porte de sortie légale.
C'est fort. Mais c'est là que la situation se corse vraiment. Parce que bon, tu guéris un homme devant tout le monde, tu harangues la foule en les accusant d'avoir tué le pionnier de la vie, évidemment, l'onde de choc remonte jusqu'aux élites.
Et les Sadducéens entrent en scène.
Ouais, et c'est pas juste de vieux érudits penchés sur des parchemins, eux. C'est des politiciens riches, impitoyables, qui contrôlent l'économie du temple. Et ils sont furieux, pas juste pour une divergence théologique, mais parce que cette résurrection, c'est plus une théorie, c'est un fait empirique qui est en train de sautiller sous leurs yeux.
Et c'est une menace existentielle pour leur pouvoir. Eux, leur légitimité reposait sur l'ordre établi. Mais il y a un angle culturel majeur à comprendre ici sur la défense de Pierre. La société gréco-romaine, elle fonctionnait sur un système de patronage complexe, le concept d'ergetès, l'évergétisme.
C'est-à-dire l'idée d'être un bienfaiteur public, c'est ça ?
Le riche qui finance les routes ou aide les pauvres pour gagner du prestige.
C'est ça. Et ça reposait sur une réciprocité stricte. On devait honorer le bienfaiteur. Du coup, punir quelqu'un pour avoir accompli un bienfait, genre guérir un infirme, c'était l'incarnation même de l'ingratitude. Et dans l'Antiquité, l'ingratitude, c'était pas juste impoli, c'était le péché social ultime.
Waouh ! Donc Pierre retourne l'accusation contre eux. Exactement. Il dit un truc du genre « Est-ce qu'on est jugé aujourd'hui pour un bienfait accordé à un homme malade ?» Il les piège avec leur propre culture morale. C'est un génie rhétorique.
Mais attends, justement, ce génie rhétorique. Les sources insistent lourdement sur le fait que Pierre et Jean sont vus par l'élite comme des hommes sans instruction. Comment de simples pêcheurs peuvent déployer un argumentaire aussi sophistiqué et tenir tête à l'aristocratie qui a crucifié leur maître ? Il y a un truc qui cloche.
En fait, sans instruction, ça ne veut pas dire stupide. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait les grandes écoles de rhétorique. Ce qui déstabilise l'élite, c'est ce que les Grecs appelaient la parésia.
La parésia.
Ouais, la liberté de parole totale, l'audace absolue. Le courage de dire la vérité au pouvoir sans aucune flagornerie. Socrate en était l'exemple. Les prophètes aussi. Pierre et Jean ont cette parésia parce que leur autorité vient d'ailleurs. Et Pierre fait même un jeu de mots avec le verbe grec « sozo ».
Laisse-moi deviner, c'est un verbe qui a un double sens. Hein ?
Exact. Ça veut dire « guérir », mais aussi « sauver ». Donc Pierre glisse de l'un à l'autre. Cet homme a été guéri, « sozo », par Jésus. Et il n'y a de salut, « sozo », en aucun autre nom.
Ah, ça devait être horriblement choquant pour l'époque. Dire que ce nom est l'unique chemin dans un empire romain hyper polythéiste où on ajoutait juste des dieux au panthéon pour avoir la paix, c'est une provocation dingue.
C'était perçu comme de l'arrogance pure, une menace pour la cohésion sociale de l'empire. C'est une tension qu'on retrouve d'ailleurs dans nos sociétés pluralistes aujourd'hui.
C'est clair. Du coup, logiquement, les autorités sévissent. Elles les menacent de prison et de mort s'ils continuent. Et là, l'instinct de survie de base, ce serait de se terrer et de faire profil bas. Mais non, la réaction de la communauté défie encore la physique. Ils sont relâchés, ils retournent vers les leurs, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient.
Mais pas n'importe comment !
Non, pas de prière de vengeance, pas de demande de sécurité. Ils demandent encore plus de parésia, encore plus de cran pour affronter le système.
Et c'est ce renversement qui est le moteur de leur croissance. Et Luc décrit un truc de fou en réponse à cette prière. Le bâtiment se met à trembler. Une secousse sismique. Et pour info, c'est pas qu'un mythe antique. Lors du réveil spirituel des îles Hébrides en Écosse au XXe siècle, on a aussi documenté des secousses sismiques pendant les prières.
C'est dingue, l'énergie collective que ça représente. Et l'impact est chiffré. Le groupe atteint vite 5000 hommes, soit environ 10 000 personnes, avec les femmes et les enfants, en plein Jérusalem.
Pour te donner une idée, Jérusalem, c'était environ 85 000 habitants à l'époque. et les pharisiens, qui étaient super influents, ils n'étaient que 6000 dans tout le pays.
Donc les disciples deviennent une force écrasante.
Numériquement supérieure à ceux qui veulent les faire taire, ouais.
Je t'avoue que, quand je lis des textes antiques, j'ai souvent tendance à douter des chiffres. 10 000 personnes, ça fait un peu propagande. Mais si on regarde l'histoire moderne, c'est hyper plausible. Le méthodisme aux États-Unis, ça s'est multiplié par 1000 en très peu de temps. Le pentecostisme, parti de rien en 1906, c'est un demi-milliard de personnes aujourd'hui. La croissance virale, ça existe.
Des pèlerins coincés là, ça demande des ressources. La réponse, ça va être la mise en commun radicale de leurs biens.
Le fameux Barnabas qui vend un champ et donne tout. Mais je veux juste préciser un truc pour notre audience. Faut pas plaquer nos concepts politiques modernes là-dessus, genre en parlant de communisme primitif, parce qu'il n'y a aucune coercition légale.
La nuance est super importante. Contrairement à la secte de Qumran ou aux pythagoriciens qui exigeaient l'abandon des biens pour devenir membre, ici c'est 100% volontaire. Personne ne force Barnabas. L'impulsion, selon les sources, elle vient d'une transformation interne par le Saint-Esprit.
C'est beau, on dirait une utopie. Les temps bouillonnent et ça crée de la chaleur pour nourrir des milliers de gens. Sauf que, bah oui, la sociologie humaine nous rattrape. Là où il y a de la lumière, il y a une ombre qui se profile.
Ah, l'ombre.
Cette générosité, ça crée une nouvelle monnaie, le prestige social. Et c'est là qu'on bascule au chapitre 5, avec le couple Ananias et Saphira.
Ouais. D'ailleurs, le nom Saphira veut dire « belle » en araméen. C'était un nom de l'élite, ce qui montre qu'ils avaient sûrement un bon statut social. Et ils voient le respect que Barnabas reçoit. Et ils veulent la même chose, le même capital social.
Donc, ils vendent une propriété ?
C'est ça. Mais ils gardent secrètement une partie de l'argent, tout en faisant croire publiquement qu'ils donnent tout.
En gros, ils veulent les bénéfices de la santé sans en payer les prix. Sauver les apparences.
C'est la définition même de l'hypocrisie. Mais Pierre les démasque. Et il précise bien que le terrain et l'argent leur appartenaient. Le péché, c'est pas d'avoir gardé l'argent, c'est la tromperie préméditée au cœur d'un environnement sacré.
Et le jugement est radical. Ananias tombe raide mort. Quelques heures plus tard, sa femme arrive, elle ment aussi, et bam, même sort. Franchement, je dois insister là-dessus, pour nous aujourd'hui, c'est hyper choquant.
Ah bah c'est sûr.
La peine de mort immédiate pour un mensonge financier. C'est terrifiant. Même les moines ultra stricts de Qumran, ils se contentaient d'excluer le menteur pendant un an. Pourquoi une telle brutalité divine? C'est presque tyrannique, non?
C'est une réaction normale d'être choqué. Dans la Bible, cette sévérité arrive souvent à l'inauguration d'une nouvelle ère. Pense à Achan dans Josué ou au fils d'Aaron avec le feu profane. Mais d'un point de vue sociologique, c'est une question d'immunologie pure.
D'immunologie, Jean? Le système de défense du corps.
Exactement. Quand un adulte attrape un virus, il est affaibli, mais ses anticorps gagnent. Par contre, si un virus attaque un embryon au tout début de son développement, ça crée des dommages structurels catastrophiques. Ça s'intègre dans son ADN.
Ah, je vois.
Le mouvement de Jérusalem, il est dans sa phase embryonnaire. Tolérer l'hypocrisie à ce moment précis, ce serait intégrer un cancer dans le code génétique de la communauté. Ce jugement, c'est une chimiothérapie d'urgence. C'est pour protéger les fondations.
Waouh. L'immunologie sociale, ça éclaire vraiment le texte. Et ça a marché apparemment. Le texte dit qu'une grande crainte s'est emparée de tout le monde. Tu m'étonnes. Fini les adhésions par effet de mode ou pour le prestige. Ça a purgé les profiteurs.
Et le paradoxe, c'est que cette terreur interne n'a pas gelé la croissance. Au contraire, cette pureté a catalysé une puissance dingue. Les miracles se sont multipliés. Les gens alignaient les malades dans les rues en espérant que juste l'ombre de Pierre les survole.
Juste son ombre, c'est fou. Pour l'époque, ça devait frôler la magie.
Ouais, l'ombre s'était vue comme une extension physique de la personne. Mais ça rappelle surtout les ossements du prophète Élisée, tellement saturés de puissance divine qu'ils ont ressuscité un mort. C'est la même idée de débordement de présence divine.
Mais bon, des émeutes de joie dans les rues de Jérusalem, ça attire encore les Sadducéens. Et le cycle de violence est prêt à recommencer. Alors, qu'est-ce qu'on doit retirer de tout ça, pour ceux qui nous écoutent?
Bah, on a vu que face au pouvoir corrompu, l'audace, la parésia, c'est l'outil ultime.
Ouais. On a vu qu'un amour authentique peut générer une générosité incroyable, sans aucune contrainte légale.
Et surtout, on a compris que dans les moments de ferveur fondatrice, l'intégrité absolue, c'est pas juste un bel idéal moral, c'est un impératif de survie biologique pour le mouvement. Et c'est tellement actuel face au besoin compulsif de gérer son image qu'on a tous aujourd'hui.
C'est ce qui rend cette analyse si percutante. La pression externe plus l'exigence de pureté interne, ça a forgé un diamant incassable. Mais du coup, je lance une réflexion captivante pour Chloé. On vient de voir ce qui se passe quand des radicaux font bouillir les temps et survivent. Mais que se passe-t-il des siècles plus tard, quand la persécution cesse, que le confort s'installe et que ce petit groupe marginal devient lui-même l'institution dominante?
Ah, la grande question.
Est-ce possible de garder l'authenticité de l'éton qui bout quand on devient le barrage qui contrôle les eaux? C'est une question fondamentale qu'on laisse en suspens. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des sources. Restez curieux et continuez de creuser.